Domingo, Catherine.
C'est pas du vent.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Catherine. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, il était une fois un grand malentendu. Une espèce vivante découvre au cours de son évolution qu'elle est capable d'inventer des outils si puissants qu'elle peut décupler ses forces pour creuser, couper, brûler à grande échelle. Ses inventions lui permettent de se déplacer vite et loin et de partager des savoirs, par exemple ceux pour se soigner et se reproduire. Résultat, nous serons bientôt 9 milliards. Et oui, vous l'aviez sans doute deviné, cette espèce c'est nous, les humains. Mais toutes ces capacités, nous avons pu les développer grâce aux autres formes du vivant qui nous permettent de respirer, de boire, de manger pour les fonctions les plus basiques. Et c'est là qu'est le grand malentendu. Car si nous continuons à massacrer ce qui garantit notre vie sur Terre, nous allons dans le mur. C'est donc l'heure de la grande réconciliation. Mais comment s'y prend-on? C'est le sujet de recherche de notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Baptiste Morisot.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille et vous venez de publier « Manière d'être vivant » chez Actes Sud, manière au pluriel. Alors vous êtes un philosophe un peu particulier, hein. Vous sortez de votre bibliothèque pour aller pister l'ours dans le parc du Yellowstone, le loup en France ou encore la panthère au Kyrgyzstan. C'est ce que vous appelez le pistage philosophique. Alors c'était l'objet de votre livre précédent, mais autant que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Alors comment en êtes-vous arrivé à cette pratique, à mêler ces deux pratiques, le pistage de la biodiversité et la philosophie ?
Ben, c'est des rencontres qui l'ont permis, mais au fond, ça répondait à un besoin, et ce besoin, il est relativement clair. Déjà, j'étais découpé en deux, puisque j'avais cette vie académique et intellectuelle qui était centrée sur les livres. Et en même temps, c'était très important pour moi d'être tissé au paysage, au milieu. J'étais beaucoup dehors, mais je n'arrivais pas à unifier ces deux pans de mon existence, jusqu'à ce que je fasse de ces paysages le sujet de mes recherches. Et là, la deuxième pauvreté dans laquelle je me trouvais, c'est que j'avais le sentiment qu'on m'avait appris à arpenter ces paysages comme des cartes postales, ou comme des fonds d'écran d'ordinateur, qui avaient une beauté esthétique, des panoramas, mais qui n'étaient pas peuplés. Et la puissance du pistage, qui m'est apparue tout de suite, c'est que c'est une pratique qui repeuple. C'est-à-dire qui rend visible que tous les vivants, que ce soit les animaux, mais aussi les végétaux, les insectes, les bactéries, constituent des peuples avec des mœurs, avec des usages, avec des formes de communication. Et ces peuples se redressent, se rendent visibles dès qu'on apprend à se rendre sensible à leurs signes, aux indices qu'ils laissent. C'est ça le pistage.
Et donc on réapprend à regarder. Alors à partir de ces expériences, vous travaillez sur les relations entre l'humain et les autres vivants à travers votre écriture, son rythme, le choix des mots. On sent comme une urgence à faire passer un message.
C'est très juste et je vous avoue que je suis encore tâtonnant sur ce point. Ça me travaille énormément. Donc moi, je viens de la philosophie universitaire, dans laquelle, je dirais, l'un des enjeux, c'est d'animer une communauté intellectuelle de pairs en proposant des concepts qui sont souvent très techniques. Ma thèse de doctorat, par exemple, est très technique.
C'était sur quoi ?
C'était sur le rôle du hasard dans le processus de constitution des individus.
Ah oui, en effet, c'est technique. Ça fera l'objet d'une autre émission.
Et puis ensuite, j'ai commencé à changer ma manière d'écrire parce que du fait de l'urgence et de la magnitude de la crise écologique, ça fait plus sens pour moi de cantonner mon travail à animer cette vie intellectuelle entre pairs comme si le monde continuait son ronron tranquillement. Et donc la question devient, qu'est-ce que c'est maintenant écrire de la philosophie face à la crise écologique? Et je n'ai pas la réponse. Donc j'expérimente des manières d'écrire, des registres, des genres pour essayer de me mettre à la hauteur de la situation. Mais dans les faits, je n'y arrive pas.
En tout cas, ça participe quand même, je vous rassure, à réfléchir au monde qui nous entoure. Alors vous dites par exemple qu'il y a une crise de la sensibilité aujourd'hui. Alors on pourrait vous répondre, oui mais quand il y a les feux en Australie par exemple, tout le monde est atterré, tout le monde crie et pleure la mort de tous ces koalas et la disparition de milliards d'animaux et de petites espèces. Donc vous dites, oui, ah oui mais c'est pas ça la sensibilité.
Exactement. Par exemple, On peut pleurer le deuil et la perte induite par les méga-feux, je ne le remets pas du tout en cause, mais j'aimerais bien savoir, parmi nous qui pleurons ça, qui d'entre nous sait vraiment ce que c'est qu'une forêt ? Qui sait ce que c'est qu'une forêt ? Qui sait ce que sont les dynamiques constitutives d'une forêt ? Qui sait ce que c'est qu'un arbre ? Qui sait comment un arbre vit à la surface de lui-même dans cette couche de cellules qu'on appelle le libère, qui sont constituées de cellules totipotentes ? Qui peut décrire ce jeu entre le libère, le calus et le cambium, qui est ni plus ni moins que l'identité bizarre d'un arbre ? C'est ça, en fait, que j'appelle la sensibilité. C'est une culture du vivant. Et je parle de culture du vivant au même sens où on parlerait d'une culture du jazz, par exemple. On voit ce que c'est avoir une culture du jazz. Moi, je suis un profane en jazz. J'ai un ami qui a une grande culture du jazz. Je vois bien quand on écoute le même morceau. Pour lui, c'est savoir les finesses dans son goût, dans l'histoire de ces morceaux, de cette musique, lui permet d'enrichir, d'épaissir son rapport à ce morceau, par toute une nébuleuse de signification qui lui donne de l'importance. C'est ça que j'appelle une culture du vivant, et c'est ça qu'on a perdu ou qu'on n'a pas, et je crois dont on a absolument besoin pour sortir de la déploration un petit peu éberluée, induite par les destructions, et poser la question des égards ajustés, et de comment on ajuste les égards à ce qu'on sait de ces autres formes de vie.
Ça veut dire quoi, ajuster les égards ?
C'est un concept qui me travaille beaucoup. Parce que il répond pour moi à une sorte de double urgence. La première urgence, c'est que on appartient à une civilisation qui est très étrange, et à mon sens, l'une de ses grandes originalités, c'est que c'est la première civilisation à avoir inventé l'idée que nous ne sommes pas tenus à des égards envers le monde qui nous a fait. Je crois que toutes les autres cultures de la Terre ne partagent pas cette idée. Quelles que soient les formes qu'elles prennent, elles estiment qu'elles ont des égards, elles doivent avoir des égards à l'égard de leur environnement donateur, à l'égard des milieux qui a constitué notre espèce et qui nous nourrit et qui nous fait respirer à chaque instant. Nous, on a inventé l'inutilité des égards. On a inventé que c'était superstitieux, que c'était c'est un truc d'écolo, les égards pour les forêts, les milieux, les animaux, les végétaux. C'est quand même assez prodigieux comme affaire. Mais en même temps, je pense que les égards abstraits, les égards en général, par exemple, appliquer une sorte de morale qui va transposer des catégories humaines directement sur les animaux, c'est pas non plus une solution, parce que le grand enjeu, c'est d'ajuster ces égards à l'étrangeté de ces formes de vie. Les égards qu'on doit aux abeilles, c'est pas les mêmes que ceux qu'on doit aux bactéries de notre intestin, et c'est pas les mêmes que ceux qu'on doit aux animaux de rente, et c'est pas les mêmes que ceux qu'on doit aux forêts. Et la curiosité et l'enquête doivent nous amener à ajuster indéfiniment les égards pour leur faire justice.
Mais alors, en effet, il y a du travail, hein, puisque même les espèces que nous aimons le plus disparaissent, et nous ne nous en rendons pas compte. L'écologue Franck Courchamp nous explique pourquoi.
On a fait une étude récemment qui visait à essayer de lister les espèces qui plaisaient le plus. Alors c'était plus pour un public occidental, européen, américain, qui ont listé une vingtaine d'espèces qui sont souvent des grands animaux, des grands mammifères même pour la plupart, beaucoup d'animaux africains, qui sont les animaux préférés, les chouchous des gens qui ont répondu à cette étude. Et on s'est aperçu que ces animaux étaient tous très mal en point, tous menacés d'extinction à relativement court terme. Alors on parlait du tigre, du lion, de l'éléphant, de la girafe, des gorilles, etc. Et on s'est aperçu non seulement que c'était un peu paradoxal que ces animaux que les gens aiment disparaissent, mais on s'est aussi aperçu que les gens ne savaient pas que ces espèces étaient menacées, qu'ils n'en avaient vraiment aucune idée. Et donc finalement, ces animaux qu'on connaît très très bien, on se demande pourquoi est-ce qu'ils disparaissent, pourquoi est-ce qu'on les laisse disparaître et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'ils disparaissent. Et en fait, on ne sait pas qu'ils disparaissent et c'est pour ça qu'on ne cherche pas à les protéger. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas qu'ils disparaissent alors qu'on devrait bien les connaître puisque c'est nos animaux préférés ? Parce qu'on les voit partout en virtuel, parce que c'est nos préférés. Donc ils sont partout dans la culture et dans le marketing. Ils sont sur tous les t-shirts, toutes les boîtes de céréales, sur toutes les affiches, sur tous les drapeaux, dans tous les dessins animés. Et donc on a l'impression qu'on voit tout le temps ces animaux et qui ne sont pas menacés. On a l'impression que les girafes, c'est relativement commun, alors que les girafes, par exemple, une des espèces de girafes, la girafe nubienne, a perdu 97% de l'espèce en 35 ans seulement. Alors, peut-être qu'on les verra dans des zoos Ils peuvent être protégés de manière in vitro, mais à l'état naturel, on sait déjà, avec des modèles, que si on continue sur cette même trajectoire, par exemple les lions, on en a pour à peu près 20 ans, si on ne change pas la manière dont on est en train de gérer les populations de lions. Le lion, c'est le roi des animaux, c'est l'espèce emblématique par excellence dans tous les pays. En Afrique, c'est même l'emblème de plusieurs pays. Il est dans toutes les histoires, tous les dessins animés, tous les logos d'entreprises. Si on perd le roi des animaux, s'il n'existe plus, quel espoir a-t-on de sauver une petite plante à Sumatra ou un petit poisson vers Bornéo?
Et on ne parle pas des insectes.
Exactement.
Comment réagissez-vous à ces propos de Franck Courchamp, Baptiste Morisot?
Oui, j'avais lu cette étude qu'ils avaient publiée, que j'ai trouvée très intéressante, très intrigante, avec ce paradoxe qu'il pointe, et puis la solution qu'il proposait, là, qui n'est pas évoquée, qui consistait à essayer de faire participer toutes les marques qui utilisent la figure de ces animaux, et à leur faire payer l'usage de
Alors,
ces...
Alors, certaines l'ont fait, hein.
Il me semble que, ça appartient très clairement à la... C'est un des paradoxes constitutifs de notre situation. Après, j'ai l'impression qu'il faut ajouter une dimension à cette formulation du problème, qui est là formulée par un biologiste de la conservation, dont le travail est, à mon sens, excellent, mais qui, du fait de son positionnement disciplinaire, ne rend pas compte de l'intensité du problème, à savoir, ce sont des animaux africains, et ce sont des animaux qui disparaissent du fait... En fait, du développement et à certains égards de la sortie de la misère de pas mal de pays africains et à d'autres égards de l'explosion démographique, même si le terme n'est pas exact. Et donc, la vraie question à poser, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour faire des leçons de conservation de la nature aux populations africaines. C'est pas du tout ce que fait Franck Courchamp.
Enfin, surtout que c'est dû aussi à la pauvreté. Cette exploitation du vivant, et puis c'est dû aussi à l'exploitation des milieux, à la déforestation pratiquée aussi par les Occidentaux, l'exploitation minière, la fragmentation du vivant.
Alors, c'est absolument dû à la fragmentation du vivant, mais moi, je soutiendrais l'hypothèse inverse, à savoir que la pauvreté, c'est une manière un petit peu ambiguë, je dirais, de rapporter la destruction du monde vivant à des situations de sous-développement. Aujourd'hui, si vous lisez l'économie écologique, vous vous rendez compte que c'est un argument idéologique qui est proposé par les sociétés développées pour dire « Non mais tout va bien, actuellement ils sont pauvres donc ils détruisent leur environnement, mais quand ils seront riches, ils le protégeront. Or nous sommes censés être riches et je n'ai pas du tout connaissance qu'on protège quoi que ce soit. » Et de fait, l'artificialisation des sols, l'usage des pesticides, l'écofragmentation, elle est à beaucoup d'égards plus présente chez nous que chez eux. Et l'autre aspect, c'est celui qui consiste à dire, comme ils sont pauvres, ils n'ont pas encore une conscience écologique. Et à nouveau, cette discipline magnifique qui s'appelle l'économie écologique, qui est beaucoup pratiquée en Amérique latine, et qui est notamment défendue par un très grand économiste qui s'appelle Joan Martinez Allière, elle dit, cette approche, elle invisibilise le fait qu'il y a ce qu'il appelle un écologisme des pauvres. Et cet écologisme des pauvres, il ne consiste pas à vouloir protéger les belles espèces charismatiques, mais à vouloir protéger leur milieu de vie. Et à préférer... que leurs mangroves restent intactes pour pouvoir y pêcher et y cueillir, plutôt qu'on y fasse des usines à crevettes. Et c'est aussi un écologisme, et c'est aussi une manière de protéger les milieux.
Alors vous pointez du doigt dans votre livre, plus que les habitants des pays du Sud, ce que vous appelez le momo, ça m'a bien fait rire,
oui.
Le moderne moyen qui privilégie par-dessus tout les relations humaines. Vous lui en voulez à ce momo?
Ben, je lui en veux, mais en même temps, j'en parle avec tendresse.
En même temps, c'est vous et c'est moi.
Absolument, hein. Puisque j'en suis un. Mais je trouve que c'est assez intéressant de faire une anthropologie symétrique, donc de nous-mêmes, mais spécifiquement du modèle moyen de nous-mêmes, c'est-à-dire de, finalement, l'attitude spontanée qu'on a à l'égard du vivant quand on ne réfléchit pas, quand on active les habitudes qui nous sont proposées spontanément par nos cultures et par nos formes économiques. Et c'est de là que vient ce personnage du momo, le moderne moyen, qui permet en fait de rendre visible, sous des formes un peu comiques, des habitudes, à certains égards, un peu tragiques, dont on hérite et qu'on continue à activer quotidiennement.
Alors, à partir de ce constat, que fait-on? Peut-être faut-il tisser de nouvelles relations, peut-être même de nouvelles relations diplomatiques, c'est ce que vous dites. On en parle après une pause musicale. Thank you. Anne Bois, Mélissa Lavaux dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes en compagnie du philosophe Baptiste Morisot aujourd'hui qui vient de publier « Manière d'être vivant » chez Actes Sud. Alors dans son dernier rapport, l'IBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, nous explique que nous assistons à une extinction massive de la biodiversité à une vitesse vertigineuse. Comment en sommes-nous arrivés là? Je vous propose d'écouter le point de vue de l'ethno-écologue Serge Bahuchet.
On est passé de 3-4 milliards à 9 milliards en moins d'un siècle. Donc c'est quelque chose d'absolument vertigineux. À partir de là, il y a effectivement une pression sur les ressources qui s'accroît, la nécessité de plus de surface agricole. Il y a aussi l'expansion coloniale à partir du moment où les Occidentaux vont s'installer sous les tropiques pour obtenir des ressources dont ils ont besoin. Ils changent le milieu naturel, il change le mode de vie des sociétés. Donc ça, c'est le 19e siècle. Et puis, l'élément, moi, qui m'a paru le plus important, finalement, bon, moi, vous l'avez dit, j'ai travaillé en Afrique centrale. La forêt équatoriale, c'est le mythe de la forêt vierge, pour nous, les Occidentaux. Et en fait, on sait maintenant, grâce aux études des historiens, des anthropologues, des archéologues, que dans la forêt équatoriale, les hommes ont fait de l'agriculture dans des milieux où l'on pense qu'ils sont intacts de présence humaine. Et on sait qu'il y a des hommes dans la forêt depuis plus de 10 000, 20 000, 30 000 ans. Et l'agriculture, elle a transformé les milieux. À partir de là, il arrive à une constatation solide, qui est certaine, c'est que ces forêts qu'on essaye de conserver aujourd'hui par des parcs nationaux en disant les hommes la détruisent, ces forêts, elles ont été construites, si on veut, avec la présence de l'homme. Et donc, là, il y a Alors, évidemment, quand on est en France, qu'on se promène dans les champs, c'est évident que les champs de blé, il y a des milliers de générations d'agriculteurs, ça va de soi. Mais il y a plein de milieux où on ne s'en rend pas compte, mais où ils ont été présents aussi, nos ancêtres.
Et donc, à partir de là, vous dites, c'est possible de réécrire un contrat.
Alors ça, c'est le souhait. Après, il y a des réalités qui sont qu'il y a la moitié de la population du monde qui vit dans des villes. Donc ça, ça fait des ordres majeurs, parce qu'il faut les nourrir, tous ces gens-là. Donc il faut avoir des systèmes de production agricole et d'approvisionnement, des réseaux d'approvisionnement qui permettent de nourrir tout ce monde-là. Vous savez, en Afrique, un des problèmes majeurs, c'est le bois de feu. Pour alimenter les foyers, il faut du bois. Et pour avoir du bois, on va le couper dans la brousse. Donc toutes les brousses qui sont autour des villes, elles sont désertes. Donc il y a à trouver des processus de gestion des espaces et des ressources qui soient beaucoup plus harmonieux que ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même très anarchique à mon point de vue.
Baptiste Morisot, comment réagissez-vous à ces propos de Serge Bahuchet?
Il faut arriver à tenir ensemble la nécessité de proposer un nouveau récit, une nouvelle manière de décrire et de penser nos relations avec le vivant, et tout en faisant justice à la finesse des situations et à la complexité du réel. C'est pour ça que moi, je m'intéresse au terrain, que j'essaie d'imaginer une philosophie de terrain dans laquelle les concepts sont soumis à la résistance de la réalité, et notamment à ses contradictions intimes, parce que c'est très bien de faire des beaux concepts, mais le problème, c'est qu'ensuite, il faut qu'ils puissent atterrir et qu'ils soient pas hors sol.
Oui, c'est un peu le problème souvent des concepts écologiques de préservation, par exemple, qui sont conçus dans des bureaux et quand ils arrivent sur le terrain, qui rencontrent les populations locales avec des impacts un peu compliqués.
Absolument.
Quand on met sous cloche des pans entiers de forêt ou de savane en disant qu'il ne faut pas y toucher à cause du tourisme ou à cause de la préservation de la forêt, ça exclut des gens.
C'est vrai, et en même temps, moi j'aimerais soutenir un point de vue un peu différent pour enrichir le débat sur cette question, parce qu'il faut arriver, donc il est évident que ces forêts-là, comme la forêt amazonienne, sont des forêts qui ont été arpentées par des humains, modulées depuis ou bien 30 000 ans en Afrique, comme il l'aura, dans le bassin dont qu'il décrit, ou bien 10-12 000 ans en Amazonie. Et il est évident que, enfin, à mon sens, toute attitude qui voudrait exclure par principe des humains d'un milieu est une attitude fantasmatique, en fait. Parce que nous sommes des animaux et nous sommes des vivants et nous avons notre place. Mais le problème est encore plus compliqué que ça, parce que, de fait, dès que nous dépassons une certaine quantité, une certaine densité, une certaine capacité de charge, notre présence ne se contente plus de moduler un milieu, elle le dégrade. Et à ce moment-là, eh bien, on ne peut plus, je dirais, simplement dire il ne faut pas exclure les humains. La question devient très serrée. Est-ce qu'il faut permettre un certain nombre d'humains dans un milieu pour que leur présence coévolue avec le milieu et ne le dégrade pas? Comment on choisit? Qui choisit?
Et d'un point de vue philosophique, puisque vous êtes philosophe, vous dites qu'il faudrait créer de nouvelles relations diplomatiques, finalement, entre les humains et le vivant, parce que sinon, en fait, on ne comprend pas que l'on dépend les uns des autres. Et c'est vrai qu'il y a plein d'exemples, vous en donnez dans votre livre, où on comprend bien que, en fait, quand on abîme en tant qu'humain l'écosystème, ça nous revient en effet boomerang.
Oui, absolument. Oui, ça c'est... Ce qui m'intéresse dans ce personnage du diplomate, c'est d'imaginer quelqu'un qui parlerait au nom des interdépendances, qui lutterait pour les interdépendances. Les interdépendances, c'est un phénomène qui est très évanescent, qui est très discret et qui est absolument fondamental. C'est le fait que nous dépendons pour vivre à chaque instant, et pas seulement pour vivre matériellement, mais aussi pour une vie qui mérite d'être vécue, pour une belle vie, d'un nombre incalculable de formes de vie et de relations écologiques avec des bactéries.
Dans une conférence, par exemple, vous donniez l'exemple des vautours en Inde.
Oui.
Expliquez-nous ça, parce que c'est très parlant.
Oui, c'est vrai que cet exemple des vautours en Inde, il est assez intriguant. Alors, si je me remémore bien l'histoire, je vais le faire de manière schématique, mais des vétérinaires et des médecins en Inde qui se rendent compte que le taux d'épidémie augmente et le taux d'intoxication augmente dans des communautés villageoises. Ils ne comprennent pas l'origine du phénomène. Et en fait, ils vont enquêter sur une chaîne de relations qui va petit à petit se faire jour. Et c'est qu'en fait, il s'avère que quand ils vont voir les origines d'intoxication, ce sont des points d'eau qui ont été pollués. Ils ont été pollués par des carcasses et des dépouilles de vaches. Et il y a énormément de vaches, donc bien évidemment en Inde. Elles sont exploitées souvent pour le lait, mais elles ne sont pas mangées. Et donc, ils se demandent, mais comment se fait-il que désormais les dépouilles polluent les cours d'eau? Et la réponse, c'est qu'il n'y a plus de vautours. Le vautour, c'est une espèce positivement extraordinaire parce que métaboliquement, cette lignée a inventé la capacité de neutraliser les pathogènes. C'est un cul-de-sac pour les pathogènes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de manger des nourritures qui seraient absolument toxiques pour le reste du vivant. Et eux, ils ingèrent ces pathogènes et ils les neutralisent en eux. Et conséquemment, c'est eux qui dépolluaient et qui protégeaient le milieu humain. Pourquoi ont-ils disparu? Parce que pour faire travailler plus les vaches, les paysans indiens les ont nourris avec des produits pharmaceutiques. Et ces produits pharmaceutiques s'avèrent être toxiques pour les vautours. Donc là, on voit apparaître une chaîne d'interdépendance qui était relativement... je dirais insoupçonnable jusque-là, et en même temps évidente pour tout le monde. C'était banal que les vautours mangeaient les vaches, mais on ne comprenait pas que, ce faisant, la population de vautours sauvages permettait aux populations humaines de vivre dans un environnement sain.
Mais si on rend visibles ces alliances, c'est beaucoup plus parlant que n'importe quel rapport scientifique avec des chiffres.
Oui, il me semble que ça permet de rendre sensible une autre identité. C'est-à-dire que ce sont des récits qui nous rappellent qu'on s'est trompé sur qui nous étions. Parce que nous croyons nous être extraits de ces interdépendances. Nous croyons avoir contrôlé par notre pouvoir technique la nature, qu'on pensait comme des contraintes. Mais la nature, les milieux, le tissu du vivant, ce ne sont pas fondamentalement des contraintes, c'est fondamentalement ce qui nous maintient en vie, c'est un environnement donateur. Et il tient du fait de ces interdépendances.
Oui, mais avec les modes de vie qu'on est en train de... répandre à travers la planète plus de la moitié de la population mondiale qui vit en ville, bientôt les deux tiers. On se déconnecte de plus en plus de cette nature, donc ces alliances, on ne les sent plus. C'est-à-dire, quand on n'est plus dépendant au quotidien de la nature pour se nourrir, on ne se rend pas compte que l'on en dépend.
Quand on n'est plus dépendant, c'est-à-dire, le dispositif du supermarché et du circuit long dans l'économie agroalimentaire, c'est un extraordinaire dispositif d'invisibilisation des interdépendances. Parce que la tomate et la pomme arrivent au Monoprix et on y a accès comme si c'était une valeur marchande qu'on pouvait échanger contre le produit de notre travail. On a complètement invisibilisé toutes les interdépendances qui sont exigées pour le paysan pour produire cette nourriture. Et ça, en effet, ça produit des... Ça contribue au mythe de l'auto-extraction.
Et donc, pourtant dans ce sens-là, alors qu'il faudrait revenir à d'autres relations et à prendre conscience que nous dépendons réellement du vivant pour le préserver. Donc sinon, on ne le voit plus que ce que disait Francourchamps sur les paquets de céréales et les t-shirts.
Oui. Je ne sais pas si on va dans ce sens-là. Je pense que ce qui est en train de se passer et qui est très intéressant, c'est une pluralisation des vecteurs à l'intérieur de la modernité. C'est-à-dire qu'on est en train de devenir plusieurs et dans une contradiction intime qui est très profonde. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande sensibilité qui est montée à une vitesse jusque-là, qu'on n'aurait pas pu imaginer, à ces questions-là. Et donc, simultanément que nos formes de vie continuent à s'éloigner du vivant, en même temps, montent des préoccupations écologiques qui sont beaucoup plus intenses qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Et à nouveau, à mon sens, c'est pour ça qu'il s'agit de contribuer à une culture du vivant. On ne peut pas ignorer l'origine et le tissu d'interdépendance dont provient notre subsistance. On ne peut pas considérer ce qu'on mange comme de la matière à portée de main. Il faut le considérer comme un don d'un environnement donateur et on est tenu de prendre soin d'un environnement donateur.
Alors comment recréer du lien? Ça passe peut-être par l'émerveillement. On en parle juste après une pause musicale.
Il ne faut pas écouter les gens qui parlent dernière. Cette gens, ils s'appellent les gaspilleurs.
Yeah.
Baba Sissoko, il ne faut pas écouter, un titre étonnant pour la radio. Donc écoutez, écoutez, restez avec nous. Vous êtes sur RFI et vous écoutez.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Et nous sommes en compagnie du philosophe Baptiste Morisot aujourd'hui qui vient de publier « Manière d'être vivant » chez Actes Sud. Être vivant, c'est être capable de s'émerveiller de la diversité qui nous entoure. C'est ce que vous avez fait dans votre livre précédent sur la piste animale, publié chez Actes Sud, à travers vos expériences de philosophe pisteur. Vous en parlez aussi dans ce dernier ouvrage. Et je vous propose d'écouter l'expérience d'un autre observateur de la nature, le photographe Vincent Munier, qui traque lui aussi la vie sauvage avec son objectif. Il rêvait de rencontrer le loup blanc qui n'avait pas été photographié depuis 25 ans. Après plusieurs jours de marche dans le désert arctique par moins 47 degrés, il est à 250 km du dernier village inuit. Et c'est la rencontre, tant attendue, avec 9 loups blancs. Il a raconté cette expérience, qui reste l'une des plus fortes de sa vie, à nos collègues de TF1.
Voilà, ma tente est prête, le panneau solaire est déplié, je recharge les batteries. Et juste avant d'aller dans mon duvet, un petit coup de jumelle à 360 degrés. Et là, au loin, je vois des petits points jaunes. Donc, j'ai toujours l'impression d'avoir des mirages. Hein. Par le froid, par... On est quand même contraint à parfois des hallucinations à ces latitudes-là. Je vois des icebergs qui bougent. Combien de fois j'ai cru que c'était un ours? Donc là, pareil, je vois des petits points qui bougent au loin, mais vraiment sur la banquise et avec cette brume de froid. Et il m'a fallu un petit moment, quoi. Et je me dis, non, c'est bizarre, ces taches jaunes qui bougent comme ça. Et ça venait vers moi, petit à petit. Et ils m'ont vu de très loin. Ils ont vu cette tente sur la banquise, cette espèce de quelque chose d'assez insolite, d'assez pas normal pour eux. Donc ils sont venus par curiosité, mais ils étaient à plusieurs kilomètres. Hein, et en l'espace de quelques minutes, ils étaient tous, les 9, autour de ma tente. Depuis que j'ai vraiment vécu ce moment, je vous assure, tous les jours j'y pense. C'est quelque chose d'assez fort. Ça fait pas loin de 8 ans que je suis toujours au Canada, un peu partout, dans le Yukon, pour essayer de rencontrer ces loups blancs. Et c'était échec sur échec. Un mois d'expédition avec mon père sur l'île de Banks, on a vu que des traces. Après, je suis allé en solitaire à nouveau, rien du tout. C'est le fantôme de la toundra. C'est ce qu'ils disent, les Inuits. Et c'est vraiment ça. On ne peut jamais décider de la rencontre avec ce loup blanc. Et là, c'était le moment incroyable, ils étaient 9. Et puis les avoir tout près, c'était ça aussi de mon but. Ce sont des animaux qui n'avaient probablement jamais vu l'homme à cette latitude.
Et restons sur ce moment-là, est-ce que c'est la peur qui vous habite? C'est la fascination? C'est la sidération?
Non, je n'ai pas eu peur, ils étaient à 9, donc bien plus forts que moi. Ils sont venus, c'était par curiosité, mais aussi par faim, ça, j'en suis persuadé. Mais il y en a qui m'ont touché, ils m'ont tiré le pantalon. Quand j'étais à plat ventre, j'aimais bien l'angle à plat ventre pour les faire en photo. Et il y avait les jeunes qui venaient tirer mon pantalon derrière. Donc j'étais vraiment encerclé. Alors je gardais des certaines millimètres. Dès qu'ils venaient à me toucher, je me mettais en position verticale et je me rapprochais un peu d'eux. Et ils repartaient sur une dizaine de mètres. Voilà. Peut-être que si j'avais été blessé, ils auraient fait leur métier. Qui m'aurait mangé, c'est possible.
À moins 47 degrés, quelle autre bestiole on trouve là-bas?
On peut marcher des jours sans rien voir et d'un coup, on peut tomber sur 50, 100 lièvres arctiques, par exemple. Encore une fois, qui n'ont jamais vu l'homme. Ils n'ont pas peur de moi, ils n'ont jamais été chassés, donc je peux presque les caresser. Ça, c'est des moments d'une force incroyable. Et pareil avec des petits renards polaires qui viennent la nuit, qui viennent ronger les fils de ma tente ou qui viennent... Ça arrive.
Des ours?
Et puis ces fameux loups. Alors l'ours polaire. L'ours polaire, mais dans cette configuration, je préfère ne pas le rencontrer. J'en ai déjà observé au loin, sur la banquise, mais souvent j'essaye de rentrer sur les terres pour éviter sa rencontre, parce qu'après c'est lui ou moi. J'ai un fusil avec des balles en caoutchouc, Et puis des vraies balles, mais ce serait vraiment un gros drame pour moi de devoir tuer un ours polaire.
Le témoignage du photographe Vincent Munier, Baptiste Morisot, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ?
Oui, c'est très beau, j'admire beaucoup son travail. Et c'est intéressant de l'entendre partager le même trouble que moi quand il s'agit de décrire les rencontres avec un loup, par exemple. Parce que moi, j'ai fait des rencontres avec des loups en France, dans des contextes beaucoup plus familiers, comme les montagnes du Vercors. Et en même temps, la rencontre conserve une dimension mythologique.
Il y a l'attente.
Il y a l'attente, bien sûr. Mais moi, ce qui m'anime, ce serait qu'on parvienne à développer un émerveillement et un respect analogue à l'égard de toutes les formes de vie. Et ça, je crois que c'est l'un des grands enjeux. C'est aussi une manière de restituer qui ils sont, de ne pas les appeler des bestioles, de faire justice à leur puissance.
Oui, j'ai dit que c'était nos collègues de TF1.
Non, mais après, c'est normal, c'est des habitudes. Ce sont des habitudes de parole qui nous dépassent complètement. Il n'y a pas du tout de culpabilité individuelle, mais c'est quand même pas anodin qu'on appelle bêtes ces animaux-là. Bêtes, c'est écrit dessus. Bêtes, ça veut dire idiot et bestial. On voit tout de suite l'imaginaire par lequel on les pousse à distance. Dans les mots les plus quotidiens, on essaie d'assurer la différence entre eux et nous.
Mais est-ce que ce n'est pas réservé à quelques privilégiés comme Vincent Munier, comme vous, de pouvoir passer du temps comme ça à traquer la vie sauvage ?
Ben, encore une fois, je pense que ces animaux-là, par exemple le loup, aujourd'hui, il est en France et il est partout, il est dans le jardin en fait. Donc c'est pas privilégié au sens où ça n'exige pas de prendre l'avion pour aller à 10 000 km dans des contextes d'un grand exotisme.
Quand vous pistez le loup, j'imagine que ça vous prend du temps.
Pas plus que...
En combien de temps on arrive à voir un loup dans le Vercors, par exemple ?
Ah oui, là, il faut du temps. Mais c'est un autre type d'attention et un autre type de pratique d'extérieur, mais ça ne prend pas infiniment plus de temps que d'aller se balader le dimanche. C'est surtout de l'intérêt. C'est-à-dire, c'est énergivore, et ça prend du temps, mais c'est un temps qu'on passe à ne pas surfer sur Internet. Et après, encore une fois, à mon sens, ces animaux-là et ces rencontres-là, ils doivent jouer le rôle d'ambassadeurs et d'intercesseurs à l'égard des formes de vie les plus communes. Les abeilles ne sont pas moins fabuleuses que les loups. Simplement, on les a banalisées. Et l'enjeu, c'est d'arriver à parler de ces loups comme des intercesseurs pour nous rappeler le prodige que constituent les formes de vie les plus quotidiennes qui sont au fond du jardin.
Oui, vous avez passé du temps à explorer les lombriques qui sont sur votre terrasse et qui compostent vos déchets.
Absolument, absolument. Justement, j'essaie de réincurver cette énergie et cette manière de parler des vivants sauvages, impressionnants, vers d'autres formes de vie. Et parce que pour essayer de lutter contre la puissance de banalisation que notre culture a générée à leur égard.
Alors du coup, c'est possible votre expérience que vous écrivez par le travail de Vincent Munier et d'autres, de créer cet émerveillement, de le partager et peut-être donc de lever ce dont vous parlez dans votre livre, c'est la malédiction de Lévi-Strauss, l'impossibilité de communiquer avec les autres espèces avec lesquelles on partage cette planète.
Oui, j'aime beaucoup cette formule de Lévi-Strauss, je trouve qu'elle est très puissante. Et Lévi-Strauss, il dit une autre chose qui me semble résonner très fortement avec votre question. Il écrit « Notre différence avec les animaux, les végétaux, les autres vivants, c'est un produit de la culture. C'est un ouvrage défensif que la culture a produit, a créé de toutes pièces pour masquer ce qu'il appelle notre connivence originelle avec les autres manifestations de la vie. » Et donc, c'est assez fascinant qu'un anthropologue, c'est-à-dire un spécialiste des cultures humaines, fasciné par les formes culturelles humaines, par les symboles humains, par les mythes humains, et était capable de se décentrer à ce point-là pour sentir que cette idée de notre différence et de notre distance avec les autres formes de vie était un ouvrage défensif, une muraille en fait. Et donc tout l'enjeu, c'est quelle dynamite on invente pour faire sauter cet ouvrage défensif.
Puis il y a l'attitude de ceux que vous décrivez comme des adultes prétendument sérieux en costume qui dirigent le monde. Qu'est-ce qu'on en fait de cela ?
Eh bien, on les travaille au corps, on les empêche de faire le mal, on milite contre eux, et puis on éduque autrement leurs enfants.
Mais dans de nombreux pays, on vote pour eux, aujourd'hui.
Mais bien sûr, mais ici aussi, on vote pour eux. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne prétends pas du tout avoir de solution miracle. Simplement, je pense que dans la pluralité des formes de militantisme, qui implique de lutter, qui implique du rapport de force, qui implique aussi de faire pression au plus près du pouvoir, qui implique parfois de négocier, qui implique d'inventer des manières d'habiter, il y en a une qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est la bataille culturelle. Et la bataille culturelle, elle revient à nous poser autrement la question de notre identité. À terme, je ne pense pas qu'on puisse mobiliser pour les questions écologiques en appelant à un amour abstrait de la nature ou en terrifiant tout le monde avec des annonces d'apocalypse. On ne peut s'intéresser aux autres vivants que si on les a fait rentrer dans le champ des êtres qui méritent l'importance, qui méritent l'attention.
Il faut créer de l'empathie.
Il faut créer de l'empathie, il faut les faire rentrer dans le champ de l'attention politique. C'est-à-dire qu'il faut les faire passer du statut de chose au statut d'être. Et ça, eh bien, ces déplacements de seuil de l'attention politique, il faut comprendre que c'est quelque chose d'assez mobile dans l'histoire. C'est-à-dire que ça va relativement vite. Ça a eu lieu avec le féminisme, ça a eu lieu avec les rapports capital-travail. Ce sont des flux culturels qui peuvent bouger à grande vitesse, et d'autant plus aujourd'hui. Et on le voit très bien, d'ailleurs. Ces 10 dernières années... Le sens de ce qui est tolérable et ce qui est intolérable, le sens de ce qui mérite qu'on en parle ou qui ne mérite pas qu'on en parle, a changé. Et c'est sur cette matière-là que j'estime qu'il faut aussi travailler pour faire la différence.
Il faut que la disparition des abeilles devienne intolérable.
Ouais, c'est ça. Et quand on regarde l'histoire culturelle de la France, on voit à un moment, la monarchie de droit divin est devenue intolérable. C'est venu assez vite, c'est venu très vite, alors qu'elle était évidente.
Ça a donné la Révolution française.
Ça a donné quelque chose de pas inintéressant qui s'avère être la Révolution française. Comment est-ce qu'on continue, comment est-ce qu'on pousse autrement ce seuil du tolérable et de l'intolérable pour que, en effet, la disparition des oiseaux des champs, la disparition des abeilles, la destruction de la vie, des océans, soit aussi intolérable que la monarchie de droit divin? Eh bien, il faut qu'on apprenne à voir du point de vue des interdépendances avec eux pour les faire rentrer dans le champ de l'importance.
Alors, ça passe par l'éducation, même si la jeunesse est quand même, dans beaucoup de pays, dans la rue, plus sur les enjeux climatiques que sur les enjeux de biodiversité, oui. Même s'il y a quand même un lien qui se fait, mais ça passe beaucoup par l'éducation. Il faut expliquer ces liens dont on parlait tout Absolument. À l'heure entre notre quotidien et les vivants qui nous entourent.
Oui, ça passe beaucoup par l'éducation et ça passe par l'auto-éducation. Il faut comprendre que le... Internet, sous sa forme 2.0, avec tous les défauts que ça a et même les problèmes écologiques que ça pose, c'est une machine extraordinaire à faire circuler de la culture et à transformer les sensibilités. Et c'est ce qui explique la vitesse avec laquelle aujourd'hui les sensibilités sont susceptibles de changer. Et moi, je suis un partisan de l'auto-éducation sur Internet. Je pense qu'il s'y passe énormément de choses. Et ça a à voir aussi avec un autre combat qui consiste à défendre ce qu'on appelle le librisme, c'est-à-dire l'Internet libre, les savoirs libres, la circulation de savoirs libres. Moi, je suis un universitaire. C'est parfaitement aberrant que le produit de mes recherches, il est publié spontanément dans des revues payantes. Alors qu'en fait, ça, c'est typiquement des savoirs qui devraient être accessibles à tout le monde et qui devraient pouvoir circuler de manière libre.
Oui, parce que la liberté d'accès à l'information et la liberté d'informer, ça va de pair, enfin, dans un monde idéal. Et c'est important parce que aussi le monde que l'on montre à voir, par exemple dans les médias, joue un rôle essentiel. Il y a des documentaristes qui sont en train de s'unir en ce moment pour dire stop aux mensonges. On nous envoie dans les pays du monde faire des documentaires animaliers pour montrer une faune en pleine forme, alors qu'autour... Tout le monde est en train de crever, mais on nous dit non, ça, tu ne montres pas. Ouais. Et ça participe aussi au mensonge et au retard de la prise de conscience.
Oui, oui, oui. Oui, ça rentre dans, je dirais, l'immense débat concernant les fake news et comment est-ce que, du fait même qu'il y ait cette plateforme plurielle qui est Internet, il devient très difficile d'évaluer la pertinence des savoirs et des contenus. Mais à nouveau, moi, je pense que l'auto-éducation est une manière de mettre en balance différents savoirs et que elle contribue à, je dirais, démocratiser des formes d'éducation qu'on avait un petit peu hiérarchisées. Et bien évidemment, ça crée simultanément le vote Trump d'un côté et des citoyens qui se mobilisent et qui arrivent à mener des luttes écologiques en devenant experts des sables bitumineux sur Internet alors qu'ils n'y connaissaient rien. Et il faut accepter de faire avec les ambiguïtés de ce monde.
Et puis, ce sera le mot de la fin, le ressenti, ne pas oublier le ressenti, essayer d'aller le plus possible, se connecter à la nature. Je me souviens d'une personne spécialiste des éléphants qui était venue nous dire que, en fait, les enfants en Afrique, là où il y a des éléphants, on avait moins vu que les Français qui voient des éléphants dans les zoos. Donc, il faut aller, quand on le peut, dans les parcs nationaux qui sont à côté de chez vous, aller voir cette nature.
Oui, mais aussi regarder les plantes sauvages qui naissent dans les interstices du bitume à Paris. Il y a des platanes extraordinaires à Paris. Il y a des faucons cresserelles qui nichent à Notre-Dame. Le vivant est partout et il pousse partout. Et l'attention qu'on peut lui donner, elle n'exige pas qu'on aille au fond de la forêt, même si c'est des expériences qui sont puissantes et qui permettent de ne pas oublier ce qu'on doit à ces milieux-là. Mais il faut se reconnecter avec le vivant partout.
Merci Baptiste Morisot d'être venu dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Manière d'être vivant, c'est publié chez Actes Sud. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur l'application Pure Radio de RFI et nous retrouver, ainsi que nos invités, en vidéo sur les réseaux sociaux, hashtag CPDV. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Même planète, même heure.